puisse venir comme il le bénit, comme il nous bénit toujours, dimanche après dimanche. Merci Seigneur de bénir ton serviteur ce matin, Seigneur, de le remplir de ton esprit, de bénir nos cœurs et nous puissions nous adonner à la parole de Dieu, à l'écoute de ta parole, à la réception, à l'étude, à la mise en pratique de ta parole. Nous ne voulons pas nous borner à écouter, Seigneur, avoir une tête remplie de bonnes choses à faire et que nous ne faisons pas, mais au contraire, nous voulons accomplir, nous voulons obéir, nous voulons suivre les directives de l'Esprit Saint, nous voulons obéir à ta parole, Seigneur, qui nous montre comment vivre sur cette terre. Merci Jésus, merci de faire ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs, nous puissions être transformés de gloire en gloire par ton Esprit, Seigneur. Merci Jésus, merci Éternel.
Amen. Merci. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à tourner vos Bibles une fois de plus dans Luc. Alors, le même chapitre qu'on a examiné la dernière fois, mais ce sera quelques versets plus haut. Ce sera Luc, chapitre 7. Les versets 18 à 34. La dernière fois, nous avons parlé de l'accessibilité de Jésus et la foi de la femme pécheresse. On pourrait aussi donner comme sous-titre à ce message de la dernière fois ou la compassion de Jésus vis-à-vis du pécheur. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre situation que je pourrais appeler le vacillement de Jean-Baptiste et l'hommage de Jésus à Jean-Baptiste ou la compassion de Jésus vis-à-vis de celui qui trébuche. La dernière fois, on avait vu le paradoxe du saint et du pécheur qui se rencontrent. Et aujourd'hui, ce serait plutôt le paradoxe de l'imparfait et du parfait qui se respectent. Donc, Luc 7, verset 18 à 34. Donc j'aimerais dire juste avant ce qui s'est passé, juste avant ce passage, on a Jésus qui a guéri un esclave à Capernaum. Capernaum qui est, je pourrais dire, au nord, en Galilée, qui était le siège ou le quartier général de Jésus. Guérison d'un esclave à Capernaum. Et puis ensuite, Jésus est allé à Naïn, où il a ressuscité le fils unique d'une veuve. Ainsi donc, nous arrivons au verset 18. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela deux qu'il envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés vers Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmité et d'esprit mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis, il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, c'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites « Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites « C'est un glouton et un buveur ». Un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. » Qui est Jean-Baptiste? Nous nous souvenons que dans Jean, en fait dans tous les évangiles, nous savons que Jean-Baptiste, c'est un cousin de Jésus. C'est le précurseur du Messie. Et nous nous souvenons aussi que c'est vers lui que Jésus est allé pour se faire baptiser. Et là, Jean protestait, disant, non, c'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt l'inverse. Et finalement, Jean-Baptiste a accepté, a obéi, puisque Jésus lui a dit, la volonté de Dieu, même si tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est que je me fasse baptiser par toi. Et nous nous souvenons aussi que c'est Jean-Baptiste qui disait à ses disciples, en voyant Jésus passer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jean-Baptiste qui avait rendu ce témoignage à propos du Messie, disant que, eh bien, Dieu lui avait dit que, eh bien, celui sur lequel, eh bien, descendrait cette colombe et qui aurait ce témoignage, donc ce serait lui. Jean-Baptiste, je suis sûr, donc, en côtoyant Jésus, en tant que jeune garçon ou adolescent, Jean-Baptiste savait qu'il y avait quelque chose de différent à propos de ce Jésus. Et à partir du moment du baptême de Jésus, eh bien là, il saurait vraiment que eh bien, ce Jésus-là était vraiment l'agneau qui ôte le péché du monde, le Messie. Et pourtant, nous voyons ici dans une situation où Jean va commencer à douter. Jean se trouve dans une situation terrible. Cet homme vers qui tout le monde allait, eh bien, pour se faire baptiser, cet homme, qui, on pourrait dire, qui avait un certain succès, dans son ministère, Et ce qui est intéressant, je réfléchissais à ça, je me dis, Jean était dans le désert et les gens venaient à lui. Il devait avoir vraiment une puissance extraordinaire. Et je pensais, lorsque nous faisons l'évangélisation et on pense à gagner des âmes, on pense à des endroits stratégiques pour vraiment gagner des gens. Et Jean va se mettre dans le désert. On pourrait dire que ce n'est pas un endroit stratégique du tout. Et pourtant, eh bien, il va y avoir un attrait. Et cet homme va avoir un ministère puissant. Et là, par contre, Jean se trouve dans une situation terrible. Il a été emprisonné à cause de son courage, à cause de son honnêteté, à cause de son obéissance à la parole de Dieu. Et il avait dit à Hérode, « Non, Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. » Et donc, nous savons que Jean sera mis en prison, et plus tard, il sera exécuté. Et là, dans cette prison isolée, eh bien, Jean-Baptiste a connu un moment de doute. Le premier point de notre message, c'est que la foi, ce n'est pas l'absence totale de doute, mais c'est plutôt surmonter ses doutes pour faire la volonté de Dieu. On voit ça aussi avec Abraham, le père de la foi. Dans Genèse 17, à partir du verset 15, Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Et verset 17, « Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Alors, Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Hein, nous savons que Abraham avait déjà eu Ismaël par Agar. Dieu lui promet un fils. Mais il pense que ce n'est pas possible. Parce qu'il a 100 ans et Abraham a 90 ans. Il rit. Mais Dieu persiste. Et en verset 19, Dieu dit, « C'est certain, ta femme, Sarah, te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac, celui dont on a ri. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Et on sait que par après, donc, Abraham surmontera ses doutes. Par rapport à cette même promesse, un chapitre plus loin, nous voyons la même attitude aussi de Sarah. Genèse 18, verset 9. Puis ils lui dirent, donc c'est les trois hommes qui se présentent chez Abraham, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en se disant, « Maintenant que je suis usé, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » On pourrait prendre aussi l'exemple de Moïse. Exode 3. Exode 3, versets 11 et 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit, est-ce que c'est possible? Est-ce possible? Moi? Et encore, il persiste. Exode 4, à partir du verset 1. Moïse dit, « Ils ne croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-la par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voici ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel de leurs ancêtres, que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ta poitrine. » Il met sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse persiste encore. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse persiste. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla, de retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » Moïse aussi a douté, mais il a surmonté ses doutes. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de Gédéon, dans Juges chapitre 6. Versets 11 à 15. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, Seigneur, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » On va sauter quelques versets. On va aller au verset 36. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, passa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Et là encore, Gédéon persiste. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. On pourrait aussi parler de Zacharie. Lorsque l'ange est venu vers Zacharie, et comme Zacharie avait douté, l'ange lui a dit, « Eh bien, puisque tu as douté, eh bien, tu deviendras muet jusqu'à la naissance du Fils, qui sera alors appelé Jean-Baptiste. » On pourrait aussi parler de Thomas. Lorsque ses camarades lui disent, « Ah, est-ce que tu sais que notre Seigneur est ressuscité ?» Il a dit, « Non, ce n'est pas possible. Et tant que je ne verrai pas, eh bien, quand je ne verrai pas et que je ne toucherai pas, eh bien, les paumes de sa main toucheraient la plante de ses pieds, et je ne croirai pas. » Et cependant, après, on voit que Thomas va surmonter aussi ses doutes, et il va faire une belle confession de foi, disant, « Mon Seigneur et mon Dieu. » La foi, donc, ce n'est pas l'absence totale de doute, mais c'est surmonter ses doutes pour faire la volonté de Dieu. Abraham a surmonté ses doutes pour croire Dieu. Sarah a surmonté ses doutes pour croire Dieu. Moïse a surmonté ses doutes pour croire Dieu. Gédéon a surmonté ses doutes pour croire Dieu et faire des exploits au nom du Seigneur. Zacharie a surmonté ses doutes pour faire une belle confession au Seigneur. Thomas a surmonté ses doutes pour faire aussi une belle confession au Seigneur. Et on pourrait, ce ne sont que quelques exemples. Et là, ce qui me touche dans ce passage extraordinaire, c'est lorsque Jean a envoyé sa délégation auprès de Jésus. Jésus ne s'est pas fâché, disant, « Mais comment est-ce qu'il peut douter de moi ? Est-ce qu'il n'a pas vu comment je me suis conduit depuis l'enfant jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien, est-ce qu'il n'a pas été témoin le jour de mon baptême, comment le Saint-Esprit est descendu sur moi et sous forme de colombe, et n'a-t-il pas entendu toutes ces choses ? » Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'a fait aucun reproche à Jean-Baptiste. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu de reproches, il va faire des compliments, il va rendre un hommage vibrant à Jean-Baptiste. Et il va dire même que c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, de l'ère de l'Ancien Testament. Et Jésus va même répondre à Jean-Baptiste. On revient à Luc 7, verset 20, il dit, « Arrivé vers Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, comme cela a été écrit dans les prophéties. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne vous présente pas un obstacle. Va dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. » Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, lorsqu'il nous répond, il ne nous répond pas par des théories, par de la philosophie, mais Dieu nous répond par des choses concrètes. Lorsque Dieu dit, « Je suis l'Éternel Tout-Puissant », lorsqu'il se révèle à Israël comme l'Éternel Tout-Puissant, eh bien, il avait déjà manifesté cette puissance en les faisant traverser la mer Rouge. Il avait déjà manifesté cette puissance en les conduisant par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est sage, nous voyons sa sagesse par des actes concrets. Lorsqu'il est dit que Dieu est saint, nous voyons sa sainteté. Lorsqu'il est dit que Dieu est bon, nous voyons sa bonté au travers de ses actes. Ce n'est pas juste des choses. Ce n'est pas juste des paroles. Mais, eh bien, toutes ces choses-là, on pourrait dire que c'est comme des conclusions. Vous avez constaté vous-même la bonté de Dieu. Vous avez été rebelle à maintes reprises. Et pourtant, Dieu vous aime encore. Il est là. Vous avez constaté la bonté de Dieu. Vous avez constaté la puissance de Dieu. Vous avez constaté la sagesse de Dieu. Ce n'est pas que de la théorie. Ce n'est pas que de la spéculation. Vous avez vu. Et donc, Jésus n'a pas donné un discours à la délégation de Jean-Baptiste. Il a dit, voyez et constatez vous-même ce qui se passe. Et ensuite, faites un rapport à Jean-Baptiste. Et donc, Jésus répond à la demande de Jean-Baptiste, qui était une demande sincère. Dieu répond à toute demande sincère. Bien sûr, il ne répond pas toujours de la manière dont nous nous attendions, puisque nous sommes limités dans notre compréhension des choses. Lui, il est au-dessus. Il a la toute sagesse. Mais ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus n'a pas réprimandé Jean-Baptiste. Il a eu compassion de Jean-Baptiste. Il comprend que Jean-Baptiste peut vaciller. Mais vaciller ne veut pas dire abandonner. Ne veut pas dire tomber non plus. Il a trébuché, certes. Et Dieu, il est celui qui comprend nos faiblesses. Il est celui qui comprend nos douleurs. Et donc, ce message, c'est un message d'encouragement pour toi et pour moi, que Dieu comprend nos faiblesses. Et le deuxième point de notre message, c'est que le Seigneur Jésus, il ne se focalise pas sur nos manquements pour oublier notre service pour lui. Dieu ne se focalise pas sur nos manquements pour oublier notre service pour lui. On voit ça avec ici Jean-Baptiste. Verset 24, « Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. » Et là, il fait l'éloge de Jean-Baptiste. C'est extraordinaire. Il fait l'éloge de Jean-Baptiste. « Qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenue élégante? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? » Oui, Jésus dit. Oui, c'est un prophète, un vrai. Pas un faux, mais un vrai. Oui, je vous le dis. Non seulement c'est un vrai prophète, mais il est même plus qu'un prophète. C'est extraordinaire. C'est bien de savoir que Dieu, il ne nous rabaisse pas, mais il nous élève de préférence. Il nous restaure, il est le Dieu qui restaure. C'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Jésus n'a pas oublié tout ce que Jean-Baptiste a fait. Ce n'est pas parce qu'il a trébuché, parce qu'il a vacillé, qu'il dit, « Ah, ce type, il n'est pas bon. » Non. Verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun ou aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et même les collecteurs d'impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. » Il dit, tout le monde a reconnu que Jean-Baptiste était un homme de Dieu, un grand homme, sauf bien sûr les pharisiens et les jaloux et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, qui ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Il n'y avait que les jaloux qui ne reconnaissaient pas qui était Jean-Baptiste. Il n'y avait que les rebelles qui ne reconnaissaient pas qui est Jean-Baptiste. C'est extraordinaire de voir l'hommage vibrant de Jésus à Jean-Baptiste. Et donc, ça me rappelle ce passage dans Hébreux, chapitre 6, verset 10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Tout ce que vous faites pour le Seigneur prend note. Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous avons été sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Mais les œuvres que nous faisons pour le Seigneur prend note. Le Seigneur prend note de notre fidélité. Le Seigneur prend note de notre consécration. Et quand nous trébuchons, il est là pour nous relever, pour dire, courage. Relève-toi. Relève-toi. Dieu ne va pas se moquer de nous ou rigoler de nous et dire, ah, regarde. Ou nous mépriser et dire, regarde, regarde. Non, il va dire, relève-toi. Relève-toi. La course n'est pas encore terminée. Relève-toi. Il y a encore un chemin à parcourir. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Relève-toi. Prends courage. Prends courage. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au Saint. Le Seigneur prend note de ton courage, mon frère. Tu es venu à l'église malgré toutes les épreuves. Et le Seigneur agira dans ta famille, mon frère. Le Seigneur agira. Le Seigneur n'oublie pas ta persévérance. Le Seigneur n'oublie pas ta fidélité. Jésus rend un vibrant hommage à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un grand homme. Ce n'est pas parce qu'il a douté à un moment donné qu'il n'est plus un grand homme. Il est un grand homme. La foi, donc, ce n'est pas l'absence de doute, mais c'est surmonter ces doutes pour faire la volonté de Dieu. C'est comme le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est surmonter sa peur, comme le pompier qui surmonte sa peur pour aller sauver un enfant qui est menacé par les flammes. C'est le courage de surmonter sa peur. La foi, c'est surmonter ses doutes. Et le Seigneur Jésus voit tout cela. Le parfait qui rencontre l'imparfait. Bien sûr, la parole de Dieu nous dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça doit être notre but, notre objectif. Tendre sans cesse vers la perfection. Tendre sans cesse vers la perfection. Mais lorsque nous trébuchons, le Seigneur ne nous abandonne pas pour autant. Il est là. Il dit, relève-toi, mon fils, relève-toi, ma fille. Un autre passage encore, c'est 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez fermes, inébranlables? Ça veut dire qu'il y a des situations qui viennent pour nous ébranler. Il y a des situations qui viennent pour nous troubler. Soyez ferme, inébranlable. Surmonte ta peur. Surmonte tes doutes. Fais confiance au Seigneur. Et lorsqu'on fait confiance au Seigneur, eh bien, à la fin, eh bien, on voit le résultat. Abraham a surmonté ses doutes. Et aujourd'hui, il est appelé le père de la foi. Sarah a surmonté ses doutes. Et elle est devenue un exemple pour toutes les femmes. Moïse a surmonté ses doutes et il est un pilier de l'Ancien Testament. Il est un type de Christ. Gédéon a surmonté ses doutes et il est un exemple pour tous ceux qui doivent affronter des ennemis nombreux. Nous nous souvenons de Gédéon avec un petit nombre. Eh bien, le Seigneur l'a rendu capable, eh bien, d'avoir une victoire glorieuse. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils disent « Ah, moi, je suis comme Thomas », mais ces gens-là oublient que lorsque Thomas, il a vu Jésus, il n'a pas dit « Ah, je veux toucher ta main, je veux toucher tes pieds », non. Il a tout de suite confessé « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est ça le vrai Thomas. Les gens, quand ils disent aujourd'hui, je suis un Thomas, ça veut dire, oh, je ne crois pas. Hein? Thomas, il a cru. Thomas, il a cru. C'est pas un mécréant. Il a vacillé, mais il est resté debout. Il est resté debout. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors le message de ce matin, c'est pas pour que vous, comment est-ce que je pourrais dire, c'est un message d'encouragement. Ce n'est pas un appel à trébucher ou un appel à abandonner, mais c'est un appel à faire confiance au Seigneur et à savoir que même lorsque vous avez trébuché, le Seigneur est là pour te relever et pour te dire, allons de l'avant, mon fils. Allons de l'avant, ma fille. Le combat n'est pas encore terminé. La victoire est là, la victoire t'attend. La victoire t'attend. Donc Dieu n'est pas là pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Amen. Jésus est là, il est venu pour nous sauver. Et il se souvient de notre travail, de notre amour, de notre fidélité. C'est pourquoi demeurons fermes, inébranlables. Gardons cette persévérance. Comme Jean-Baptiste qui a gardé cette persévérance. Comme Abraham, comme Sarah, comme Moïse, comme Gédéon, comme Thomas. Ils sont allés jusqu'au bout. Donc ne permettons pas, le but du message c'est de ne pas permettre à Satan de profiter d'un moment de faiblesse et de dire, ah oui, bon voilà, j'ai tout raté et c'est fini. Satan prend plaisir à ça. Et dit, ah regarde, tu te dis un enfant de Dieu, regarde. Mais de savoir que le Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de tout péché, de toute iniquité. Il est là pour nous relever. Et donc c'est un appel aussi à la compassion pour ceux de nos frères et sœurs qui passent peut-être par des moments difficiles et qui doutent. Et notre tâche, ce n'est pas de les condamner davantage. Ce n'est pas de les enfoncer, de dire, ah, comment est-ce que tu peux douter, non. Et de dire, mon frère, ma sœur, je comprends, ou j'essaye de comprendre, je compatis, et je suis là pour t'aider, et je suis là pour te donner la main. Non pas pour enfoncer davantage. Ou plutôt, quand quelqu'un a fait une bêtise, parfois la personne sait qu'elle a fait une bêtise. Il ne faut pas en rajouter, de dire, ah, regarde, voilà, tu l'as fait. Mais de dire, donc, d'être là. D'avoir une oreille attentive, une oreille qui écoute, non pas une oreille qui cherche la petite bête pour enfoncer davantage, mais de dire, je comprends. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné pour autant. Tu as l'impression que le Seigneur t'abandonne, mais il ne t'a pas abandonné. C'est ce que nous devons dire. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as l'impression, c'est vrai, que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là et il va te donner la victoire. Il va changer le mal en bien. C'est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Et c'est le Dieu qui relève au temps fixé. Au temps fixé, il relèvera ta tête. Et donc, nous devons apporter ce message d'espoir, ce message de consolation, ce message de restauration. Jésus n'a pas condamné Jean-Baptiste lorsqu'il a trébuché. Mais au contraire, il a reconnu tout ce que Jean a fait. Trop souvent, les hommes oublient les bonnes choses que quelqu'un a fait pour eux pour seulement se focaliser sur l'erreur. La seule erreur, ou peut-être deux ou trois erreurs, que sais-je. Ils se focalisent sur ce qui ne va pas. Et ça, Satan se plaît à faire cela. Focaliser notre attention sur ce qui ne va pas. Ou focaliser notre attention sur ce que nous n'avons pas. Et nous ne voyons pas ce que nous avons, nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas. Et quand ce que nous avons, on le perd, et à ce moment-là, on se rend compte qu'on avait beaucoup de choses. Donc Satan veut focaliser notre attention sur ce qui ne va pas. Mais Jésus est là pour nous rappeler, regarde tout ce que Dieu fait pour toi. Non pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il fait pour toi aujourd'hui. les bonnes choses que Dieu fait pour toi sont plus nombreuses que les mauvaises choses qui peuvent t'arriver aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et notre Dieu est un Dieu pour qui nous avons du prix à ses yeux. Et Jean-Baptiste avait du prix aux yeux de Jésus. Il lui a rendu hommage. Il ne l'a pas grondé. Il a dit, va dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce que vous constatez. Et dit à Jean, tu ne t'es pas trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est pas parce que tu es en prison que ça veut dire que ce que tu croyais est mauvais. Non, tu ne t'es pas trompé, Jean-Baptiste. Regarde ce qui se passe. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les morts ressuscitent. Tout ce qui a été annoncé s'accomplit. Et même au-delà, les morts ressuscitent, ça ne faisait pas partie des prophéties. Va dire à Jean, voilà tout ce que vous voyez. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la spéculation, mais c'est des réalités. Va dire ça à Jean-Baptiste. Et je suis sûr que là, quand Jean a entendu ce rapport, il a été consolé. Il a dit, c'est pas grave. Je reste en prison, mais c'est pas grave. Le Messie est arrivé. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Je peux mourir en paix maintenant. Je ne me suis pas trompé. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Et ne permettons pas à Satan de nous arrêter en chemin. Et quand nos frères et sœurs trébuchent à côté de nous, ne les enfonçons pas davantage, mais disons, le combat n'est pas encore terminé et qu'il y a une couronne qui nous attend. Que le Seigneur nous bénisse tous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta présence avec nous ce matin. Tu nous aimes tous de l'amour extraordinaire. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles et qui peuvent peut-être douter que est-ce que tu es là vraiment. Seigneur, nous voulons que tu te révèles à mon frère, ma sœur qui passe par des moments difficiles et qui se demande où tu es. Qu'il sache, qu'elle sache que tu es là et que tu l'aimes d'un amour extraordinaire et que tu n'as pas oublié son travail. Tu n'as pas oublié sa persévérance. Tu n'as pas oublié sa fidélité. Et qu'au temps fixé, tu relèveras sa tête. Et qu'il y a une couronne de gloire qui nous attend tout un chacun, après nos épreuves, après nos labeurs, après nos difficultés, après nos humiliations, après toutes les choses que nous aurons connues, la trahison, le mépris, la persécution, l'incompréhension, tu nous donneras cette couronne qui nous est réservée. Aide-nous à aller jusqu'au bout et à dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Oh Jésus, merci de nous aider à avoir la compassion pour nos frères et sœurs qui doutent, qui trébuchent, et d'être là pour eux comme un bâton sur qui ils peuvent appuyer pour se relever. Que nous soyons des Barnabas, des fils, des filles d'encouragement, pour nos frères et sœurs, qu'ils reprennent courage, qu'ils reprennent leur envol. Oui, qu'ils reprennent leur envol. Aide-nous à être un peuple fort, un peuple rempli d'amour, rempli de compassion, les uns pour les autres. Que ta gloire se manifeste dans nos vies, au travers de nos vies. Que ton amour se manifeste dans ton Église et que le monde reconnaisse que nous sommes tes disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Béni sois-tu, Père. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur, dans nos manquements. Oui, Jésus, donne-nous de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen.